Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Jude. Nous reprenons notre étude de ce livre qui se trouve à la fin de la Bible, juste avant le livre de l'Apocalypse. Et ce matin, nous allons lire les versets 11 à 13. Jude, les versets 11 à 13. Et voici la parole de Dieu. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Et c'est la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons vu les différents éléments caractéristiques de l'antinomisme de ces intrus qui s'étaient infiltrés dans l'Église. Et Jude continue à avertir ses lecteurs au sujet de ces faux enseignants. Et l'accent ici, dans ces versets, est mis sur le danger du faux enseignement. Et le ton du langage de Jude est clair. Jude veut secouer ses lecteurs et il veut les réveiller pour qu'ils soient sur leur garde, qu'ils veillent. Jude veut souligner la gravité de ce faux enseignement, en particulier ce faux enseignement qui dit que la grâce n'est qu'une licence pour continuer à vivre dans le péché. Jude veut que nous réalisions qu'on ne peut pas surestimer la gravité d'un tel enseignement. C'est un véritable danger. Nous devons être conscients du danger de ce faux enseignement. Et Jude veut au contraire que nous apprécions toujours plus l'Évangile dans toute sa totalité, dans toute sa plénitude. Ce matin, nous allons diviser le message en trois points. Tout d'abord, le premier point, une confirmation passée de la malédiction. Jude commence ce passage avec cette exclamation au verset 11, « Malheur à eux !» Et il va poursuivre en nous donnant une triple confirmation qui vient de l'Ancien Testament pour justifier cette déclaration de malheur. Et c'est une déclaration prophétique. Un commentateur écrit ceci, « La déclaration d'un malheur implique une conscience prophétique de la part de l'orateur ou de l'écrivain, comme quelqu'un qui est autorisé à annoncer le jugement divin. » Il y a une conscience de soi chez Jude, qu'il a pris le rôle et la fonction d'un prophète pour dénoncer ce faux enseignement et ces hérétiques qui se sont infiltrés dans l'Église. Dans l'Ancien Testament, une telle déclaration de malheur était quelque chose de courant pour un prophète de Dieu quand il dénonçait, quand il condamnait à la fois de la part de Dieu et sous l'autorité de Dieu la méchanceté des nations païennes, ou alors quand il prononçait un jugement contre les faux enseignants en Israël, quand il prononçait un jugement contre l'infidélité du peuple de l'Alliance. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a prononcé plusieurs déclarations similaires de malheur contre faux enseignants incrédules qui égaraient la nation d'Israël, mais aussi contre ceux qui refusaient de croire en lui. Mais la nature prophétique de cette déclaration, on la voit aussi dans la manière dont Jude parle de ces faux enseignants. Il parle d'eux au passé. C'est une façon très prophétique. Jude parle d'événements présents ou futur, mais il le fait au passé, pour souligner la certitude de leur accomplissement. Il dit « ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, et ils se sont perdus par la révolte de Corée ». Les prophètes parlaient souvent de cette façon pour souligner la certitude de l'accomplissement. Et Jude poursuit en nous donnant la raison derrière cette déclaration prophétique de malheur. Et il le fait en faisant un parallèle entre ces faux enseignants et trois personnages notoires de l'Ancien Testament. Jude met en avant ces personnages comme des images, comme des ombres, dont les faux enseignants à qui Jude s'adresse sont l'accomplissement. Le premier personnage de l'Ancien Testament que Jude choisit est Caïn. Verset 11, « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. » Cette expression « suivre la voie de quelqu'un », c'est une expression qui ramène à la conduite, au mode de vie, au comportement de quelqu'un. Suivre l'exemple moral de quelqu'un. Et Jude dit que ces intrus ont pris comme modèle la voie de Caïn. Alors bien sûr, ça soulève la question, qu'est-ce que la voie de Caïn ? C'est à partir de nombreuses descriptions bibliques de Caïn qu'il est l'exemple type de l'homme incrédule, au contraire de son frère Abel. On voit ça en Hébreux 11, par exemple. Caïn est le premier meurtrier. C'est le premier exemple de haine. Caïn a montré un mépris en particulier pour la parole de Dieu, pour l'instruction de Dieu. Et il a même agi contrairement à l'instruction de Dieu. Malgré le fait que Dieu lui avait averti du danger de laisser le péché dominer sur lui. Genèse 4, verset 7. « Certainement, dit Dieu, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et on connaît la suite. Caïn s'est laissé dominer par le péché, malgré l'avertissement de Dieu. Voilà un homme qui, par son exemple, méprise la parole de Dieu, méprise l'instruction de Dieu et se retrouve livré à la domination du péché sur sa vie. Mais il y a aussi plusieurs sources de la pensée juive du premier siècle, en dehors de la Bible, qui voient Caïn comme quelqu'un qui a incité d'autres à pécher. L'enseignement rabbinique traditionnel de l'époque indiquait que Caïn était un corrupteur, quelqu'un qui allait corrompre, qui avait corrompu la race humaine. Et on peut penser que les lecteurs du premier siècle à qui Jude s'adresse ont tiré cette conclusion en lisant cette référence que Jude fait à la voix de Caïn. Un commentateur dit « Par ses paroles et ses actes, Caïn a prêché que Dieu ne veut pas dire ce qu'il a dit. Caïn a tué Abel parce qu'il croyait que la parole de Dieu n'était pas vraie. » Et donc la voix de Caïn que ces intrus suivent, ce mépris de manière flagrante, mépriser l'autorité de Dieu, c'est s'abandonner au règne du péché. Ou pire encore, inciter les autres à faire de même, que ce soit par l'exemple ou par la parole. La voix de Caïn, deuxième exemple, deuxième personnage de l'Ancien Testament que Jude choisit, est Balaam, toujours verset 11. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Et Jude fait monter l'intensité d'un cran. Ils se sont jetés, ils ont plongé dans l'égarement de Balaam. Et l'idée ici, c'est un mépris insouciant des conséquences. On ne se soucie pas des conséquences de nos actes. Mais c'est aussi un engagement sans réserve dans l'erreur. Ils ont plongé dans l'égarement de Balaam. Et bien sûr, ça soulève encore une fois la question, qu'est-ce que l'égarement de Balaam ? Dans le livre des Nombres, chapitre dans les chapitres 22 et 22 à 24, on l'histoire de Balaam et comment Balak, le roi de Moab, a loué les services de Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Mais par différents moyens, Dieu l'a empêché de le faire. Et au contraire, Dieu a poussé Balaam à prononcer des bénédictions sur le peuple de l'Ancienne Alliance. Mais ça ne se termine pas là. Parce que dans l'épisode suivant de l'histoire d'Israël, qu'on va trouver dans le chapitre 25, on voit les Israélites qui commencent à adorer Baal et à se livrer à la débauche avec les filles de Moab près de la ville de Péor. Ce qui a poussé la colère de Dieu à s'enflammer contre ce même peuple qu'il venait de bénir au travers de Balaam. Il y a seulement quelques versets. Et si on pousse plus loin dans le livre des Nombres, on arrive au chapitre 31 et on découvre que c'est Balaam qui était l'influence derrière cette grande immoralité que l'on lit au chapitre 25. En Nombres 31, verset 16, on lit ceci. « Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Alors éclata dans la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. » Balaam a incité le peuple d'Israël à l'immoralité, à l'idolâtrie et à l'apostasie. En Apocalypse, au chapitre 2, nous avons le Seigneur qui envoie cette lettre et qui parle de ceux qui s'attachent à la doctrine de Balaam. Apocalypse 2, verset 14. « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. » Et donc, de la même façon, Jude dit que ces faux enseignants voulaient inciter, ou du moins chercher à inciter le peuple de Dieu à vivre dans le péché et dans l'immoralité. Jude précise que ces faux enseignants se sont jetés dans cette voie parce qu'ils en retirent quelque chose, que ce soit de l'argent ou un certain statut dans la société. Et par amour pour l'argent, pour le monde, pour les richesses, pour la notoriété, ces hommes s'engagent de plein gré dans l'erreur. Mais l'accent est mis sur le fait que Balaam est quelqu'un qui incite les autres à l'immoralité. Et Jude est en train de dire à ses lecteurs, mais voici la véritable identité de ceux qui se sont infiltrés parmi vous. Voici ce qu'ils sont réellement. Ils sont comme Balaam qui a trompé Israël, qui l'a amené dans l'immoralité. Malheur à quiconque incite quelqu'un d'autre à vivre dans le péché. Nous ne devons pas suivre ce genre de personnes. Proverbe 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Voilà Caïn, voilà Balaam, troisième personnage de l'Ancien Testament que Jude choisit. Corée, verset 11, « Ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Ce verbe qui est traduit « perdu » ici peut aussi être traduit par « périr »,« mourir ». En Nombres, chapitre 16, Corée est un personnage célèbre pour avoir mené une mutinerie contre Moïse et contre Aaron. Le mot que Jude utilise pour révolte met l'accent sur l'opposition vocale contre Moïse, l'opposition vocale dans cette rébellion. Et Corée était le meneur de cette rébellion. Il incitait les autres à se rebeller. Et dans l'argumentation de Jude, Corée est le modèle par excellence d'un responsable impie qui défie les responsables que Dieu a désignés, qui défie la vérité que Dieu a révélée, qui veut inciter les autres à faire de même. Don Carson, dans son commentaire de l'usage de l'Ancien Testament par le Nouveau, écrit ceci, Jude dit que ces faux enseignants se rebellent contre l'autorité spirituelle qui a été dûment constituée. Et il annonce que par analogie avec le destin de Corée, ils seront également détruits. Ce qui est frappant dans ce troisième personnage que Jude choisit, c'est ce caractère exceptionnel du jugement qui est tombé sur Corée. Il a été détruit par Dieu. La terre elle-même s'est ouverte pour engloutir Corée et tous ceux qui l'avaient influencé. Nombre 16, verset 33. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Ces faux enseignants qui s'étaient infiltrés dans l'église à qui Jude s'adresse connaîtront cette même fin, dit Jude. C'est une certitude. Jude, comme on l'a dit au début, il parle au passé, mais pour décrire la réalité de l'accomplissement. Ils se sont perdus, ils vont périr. Jude a placé ces trois personnages dans un but, dans un ordre bien précis. Corée, bien sûr, est placée en dernier pour souligner la nature terrible du jugement, de la condamnation, mais il y a une progression dans la gravité de ces exemples. Ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés, ou ils ont plongé dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus, ou ils ont péri par la révolte de Corée. Cela nous rappelle une autre progression, avec la même fin. Dans le premier psaume, on retrouve cette spirale d'un mode de vie qui mène au jugement et à la mort éternelle. Alors bien entendu, le psalmiste dit « Heureux ceux qui ne font pas cela ». Mais il y a celui qui marche selon le conseil des méchants, qui s'arrête sur la voie des pécheurs et qui s'assied en compagnie des moqueurs. Et le psalmiste termine ce premier psaume en disant « La voie des pécheurs mène à la ruine ». Et Jude souligne la même chose. Une confirmation passée de cette malédiction. Deuxième grand point, le portrait au présent de cette malédiction. Et dans les versets 12 et 13, Jude se lance dans une série de métaphores pour brosser le portrait de ces intrus, de ces faux enseignants. Et ce que Jude fait dans ces versets, c'est de souligner l'effet qu'ils ont sur le peuple de Dieu. Ces hommes se sont infiltrés dans l'Église sans être remarqués. Ils ne faisaient pas la promotion de leurs faux enseignements. Ils se présentaient comme des gens bien. Ils parlaient de la grâce. Mais Jude se lance dans cette série de métaphores pour brosser un portrait qui est clair, qui est sans équivoque, de la véritable identité de ces personnes. Et la première description que Jude donne dans ces hommes, on l'a au verset 12, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Alors certaines traductions parlent de tare ou de souillure à la place d'écueil. C'est sans doute parce que l'apôtre Pierre utilise un mot très proche en 2 Pierre 2, versets 12 et 13, quand il parle d'hommes tarés et souillés qui se délectent dans leur tromperie. Pierre a écrit après Jude, mais il a légèrement changé le mot que Jude utilise. Jude utilise le mot « spilas », qui veut dire « récif », alors que Pierre le transforme en « spilos », qui veut dire « tache, souillure ». Jude parle d'un élément rocheux, d'un récif. Et l'image qu'il veut transmettre ici est celle d'un récif qui se trouve juste en dessous de la surface de l'eau, qui est invisible, mais qui présente un danger. Il y a le risque de naufrage. Et Jude souligne que ces faux enseignants sont un danger pour les croyants. Il les avertit. Il précise qu'ils font impudemment bonne chère, ils festoient sans scrupule. Ce qui caractérise ces hommes qui enseignent l'antinomisme, c'est une arrogance pleine d'assurance. Il n'y a aucune crainte, il n'y a aucun respect. Le commentateur écrit, l'attitude irrévérencieuse se rapporte probablement à l'arrogance spirituelle de ces faux enseignants, qui se comportent comme s'ils étaient leurs propres maîtres et non soumis au Seigneur. Ces hommes rejettent toute obligation d'obéir à la parole de Dieu et manifestent leur propre justice, leur attitude moralisatrice. Et ces hommes représentent un réel danger. Parce que, comme il le dit, ils sont très proches d'eux. Jude précise qu'ils étaient avec ces croyants dans vos agapes. Ces agapes étaient des repas fraternels de l'Église primitive où l'Église se retrouvait pour partager un repas. Et au milieu de ce repas, les croyants célébraient la scène, le repas du Seigneur. On sait qu'il y a eu des abus, parce que l'apôtre Paul, par exemple, doit reprendre les Corinthiens à ce sujet. Mais ici, dans ce moment de communion, d'intimité, de communion fraternelle, intime, il y avait ce danger que représentaient ces faux enseignants. Un commentateur explique le problème est que la présence de ces faux enseignants était dangereuse, en particulier parce que le repas était le moment où les paroles prophétiques et l'enseignement étaient partagés. C'est le moment où les croyants étaient le plus vulnérables aux faux enseignements, à cause du cadre intime et de ce qui se passait dans ce cadre des agapes de repas. Et Jude ne veut pas permettre à ces brebis précieuses d'ignorer le danger que représentent ces personnes, ces hommes. Et Jude continue, il dit « ils se repaissent eux-mêmes ». L'idée ici, c'est l'idée du berger qui ne se nourrit que lui-même, qui ne prend soin que de lui-même. Une métaphore pleine d'ironie, parce que l'unique rôle du berger, c'est de prendre soin de quelqu'un d'autre que lui-même. Dans cette situation à laquelle Jude s'adresse, ces faux enseignants ne prenaient pas soin du troupeau. Au lieu de prendre soin, de protéger le troupeau, ces hommes ne pensaient qu'à leur bien-être personnel. L'Ancien Testament a annoncé l'idéal qui devait venir de la lignée de David, le berger roi qui régnerait sur le peuple de Dieu, ce qui a été accompli bien sûr par le Seigneur Jésus-Christ. Et il est un modèle pour tous ceux qui sont appelés comme des sous-bergers pour prendre soin du troupeau du peuple de Dieu. Mais ces faux enseignants manifestent le contraire de l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient centrés sur eux-mêmes. Et Dieu ne prend pas cela à la légère. Il est clair que Jude a en tête un langage bien connu de l'Ancien Testament, le langage d'Ézéchiel 34, verset 2, par exemple. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau ? Ézéchiel 34, verset 2. Ce dont les brebis ont besoin, c'est d'une nourriture solide, riche. Les brebis ont besoin que le lait spirituel et pur de la parole de Dieu le soit apporté, que ce glorieux évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ leur soit annoncé dans toute sa puissance, à la fois pour le salut des âmes, mais aussi pour l'édification, pour la transformation des cœurs. Mais au lieu d'enseigner ce double remède de l'Évangile, à la fois pour le salut des âmes et pour la transformation des cœurs, ces intrus n'enseignaient que le faux réconfort d'un faux Évangile qui n'a aucune puissance de transformation. Ils enseignent une grâce qui fonctionne comme une licence pour continuer à vivre dans le péché, et un Dieu petit dé qui n'est jamais en colère contre quiconque. Ce sont des écueils. Il y a danger. La deuxième description que Jude donne de ces hommes, toujours au verset 12, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents. C'est l'image de nuages qui ont l'apparence d'être remplis, qui annoncent la pluie. Cette pluie qui vient nourrir la végétation pour apporter la vie, surtout quand la terre est sèche. Mais ces nuages n'apportent rien. Ils sont poussés par les vents. Ils n'offrent même pas une goutte d'eau. Et Jude dit, ne vous laissez pas tromper par de tels intrus. Ils peuvent parler de grâce, mais c'est un mirage. La grâce dont ils parlent est sans force pour nous faire croître. Elle n'a rien à voir avec la grâce de la parole de Dieu qui produit la vie, qui produit la croissance. Comme Proverbe 25, verset 14, « Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités, ou comme une autre version dit, qui se vante de sa libéralité sans rien donner, fait penser aux nuages amenés par le vent et qui n'apporte pas la pluie. » Jude souligne ici la tromperie de ces faux enseignants. Ils prétendent offrir une vérité rafraîchissante, mais en réalité c'est un mirage. C'est un désert aride. Le commentateur dit, « Ceux qui ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux sont exactement comme ceci. Ils voudraient nous conduire dans d'autres directions et suggérer aux assemblées dont ils ont la charge qu'il n'est pas nécessaire de suivre la parole de Dieu. Mais dans les faits, ils ne fournissent rien qui augmente la croissance ou apporte la vie au peuple de Dieu. » Et Jude nous dit, nous avertit de nous méfier de tout ce qui peut être recouvert d'un vernis attrayant, mais qui n'a pas de substance biblique, qui n'est pas fondée sur les Écritures, qui n'est pas centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des implications à cela, dans le choix de l'église locale, par exemple, dans le genre de prédicateur que l'on veut écouter. Qui allons-nous laisser nous influencer? Qui allons-nous suivre? Qui allons-nous écouter? Ces faux enseignants sont dénués comme sans eau. Troisième description que Jude donne de ces hommes, toujours verset 12, ce sont des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. L'automne, c'est le temps où les arbres devraient être mûrs. On s'attend à voir des arbres remplis de fruits. Imaginez qu'on se promène dans un verger de pommiers, par exemple, et il n'y a aucun fruit. La Bible utilise souvent l'image de porter du fruit pour mettre en avant la différence entre le véritable croyant et l'incroyant. On pense aux fruits de l'esprit, en Galates 5, 22, par exemple, ou bien au psaume 1, auquel on a déjà fait référence tout à l'heure. Dans ce psaume, le croyant est décrit comme quelqu'un en qui Dieu produit du fruit en abondance. Psaume 1, verset 3, « Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit pas. » Le Seigneur Jésus-Christ, en parlant des faux enseignants, un peu comme Jude le fait ici, montre que les faux docteurs se révèlent par l'absence du fruit de l'Esprit. En Matthieu 7, par exemple, à partir du verset 15, où le Seigneur dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et pour lire les versets suivants aussi. Jude précise que ces arbres sans fruits sont deux fois morts. John Benton, dans son commentaire « Comment garder la foi ?» publié chez Europress, dit ceci. Les faux docteurs ne portent aucun fruit parce qu'ils sont doublement morts. Ils sont naturellement stériles. Ils sont déracinés du Christ, qui seul peut rendre fécond. Un autre commentateur précise, la métaphore des arbres stériles et déracinés renvoie au désir de Jude de démontrer leur nature absolument corrompue et inutile. Jude n'a aucun espoir pour eux. Ce sont des arbres sans fruits. La quatrième description que Jude donne de ces hommes, verset 13, ce sont des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. La métaphore des nuages sans eau et des arbres sans fruits montre que les faux enseignants étaient dépourvus de tout ce qui est bon, de tout ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Dans cette métaphore ici, En contraste avec les autres, Jude les décrit comme étant remplis, mais remplis de l'opposé. Ils n'apportent rien qui soit bon pour les auditeurs. Au contraire, ils vomissent ce qui est nuisible, ce qui est infect. Un commentateur écrit, la métaphore fait un point assez différent des métaphores des nuages et des arbres, qui n'ont rien produit, alors que les vagues produisent quelque chose, mais le produit est horriblement différent de l'enseignement et de la conduite du vrai prophète chrétien. Au lieu d'édifier les autres chrétiens, ces hommes les souillent comme la boue rejetée par une mer déchaînée. Et Jude fait référence à Ésaïe 57, verset 20. Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Ésaïe 57, verset 20. La mer n'est pas seulement une image d'instabilité et d'incontrôlabilité, c'est aussi une image de l'agitation de la pollution qui se trouve au fond. Tout ce que ces faux enseignants prétendent offrir, même en le présentant de façon très attrayante, tout cela est mis à jour alors que Jude révèle ce qu'ils offrent en réalité. Et ce qu'ils offrent n'est que pollution et déshonneur. Un commentateur écrit « Ces faux enseignants sont aussi dangereux et aussi hors de contrôle que les mers les plus sauvages. Et l'écume produite par les vagues fournit une image vivante de la pollution qu'a produite leur conduite honteuse. Si l'image me fait peur, c'est normal. La plus grande protection pour cette assemblée et les chrétiens à travers les âges est d'avoir peur de ceux qui pourraient les égarer. » Et c'est vrai à tous les niveaux, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau de l'Église. Nous devons veiller en regardant qui nous laissons nous influencer, qui influence nos enfants, qui influence nos foyers, qui influence notre Église. Jude dit, ces personnes sont des vagues furieuses, comme les vagues furieuses de la mer. Et la cinquième description que Jude donne de ces hommes, verset 13, ce sont des astres errants. Le terme traduit par errant vient du grec planétès, d'où on tire en français le mot planète. Et l'idée à l'époque, c'était que les astres, les étoiles, étaient des planètes qui déviaient de leur trajectoire, qui erraient de leur trajectoire. Et derrière le terme errer, il y a le mot erreur, et qui nous renvoie au verset 11, au mot égarement. Ces hommes erraient, s'éloignaient de la vérité. Mais aussi autre chose, ou une implication de cela. Il y a la leçon que personne ne doit chercher son chemin en suivant un astre errant. Un astre qui erre de la vérité. Jude souligne que l'enseignement de ces intrus a une nature trompeuse. Ces faux enseignants promettent la protection, la sécurité sur le chemin vers la maison du Père. Mais ils ne produisent qu'incertitude, confusion. Ce sont des astres errants. Cette déclaration de malédiction, cette accumulation de métaphores, l'usage des personnages de l'Ancien Testament, tout cela devrait nous montrer et montrer au peuple de Dieu de manière claire combien Dieu se soucie de son peuple. Le vocabulaire de Jude, le langage qu'il utilise, tout cela est une évidence de l'amour protecteur de Dieu pour son peuple, pour son Église. Il garde, il protège ses enfants. Jude est une sentinelle. C'est un guetteur, il veille, il avertit quand l'ennemi approche. Et cet avertissement est l'évidence d'un amour férocement jaloux de Dieu pour son Église, pour son peuple, pour ceux qui sont précieux à ses yeux. Et nous sommes précieux aux yeux de Dieu, non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de celui à qui nous sommes unis par la foi, à cause de Jésus-Christ, de son œuvre parfaite. Et cet amour férocement jaloux de Dieu est un amour sans limite. Il ne permettra pas à ses enfants que ses enfants soient égarés par l'erreur. Il va susciter des Judes pour avertir son peuple. Cela devrait pousser n'importe quel enseignant, n'importe quel responsable, ou quelqu'un qui est dans la position où il peut influencer un autre chrétien, d'être saisi de crainte et de ne s'appuyer que sur la grâce de Dieu qui rend capable d'accomplir cette tâche d'une manière qui soit agréable, d'enseigner. Cela devrait nous pousser à apprécier toujours plus l'enseignement fidèle de la parole de Dieu, l'influence de parents croyants et d'enseignants fidèles. On arrive au troisième point. On a vu la confirmation passée de la malédiction, le portrait au présent de cette malédiction, et troisièmement, la finalité future de la malédiction. Après avoir fait appel au personnage de l'Ancien Testament, après toutes ces métaphores pour décrire l'effet que ces faux enseignants ont sur les autres, Jude conclure de la manière la plus sinistre vers la fin du verset 13, en décrivant la fin ultime de ceux qui cherchent à égarer le peuple de Dieu. Ce sont ceux pour lesquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. On pourrait aussi traduire l'obscurité la plus noire. Cette image d'obscurité totale est l'une des descriptions de la Bible de l'enfer, une obscurité éternelle. La Bible parle aussi de feu éternel, de tourment. Jude utilisera ce langage un peu plus loin. Mais l'image d'obscurité se rapproche le plus de cette dernière métaphore de l'étoile et du destin d'un astre errant. Le Seigneur Jésus-Christ va utiliser ce vocabulaire d'obscurité à plusieurs occasions quand il parle de ceux qui sont jetés au dehors, dans l'obscurité du dehors, dans ce lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Thomas Manton, un commentateur puritain du XVIIe siècle, écrit que cette image d'obscurité décrit le fait d'être le plus éloigné de Dieu, qui est la source de vie et de gloire, et exprime ainsi cette misère extrême, l'horreur, le tourment qui est en enfer. Cette obscurité la plus noire révèle cette séparation infinie de la lumière et de la présence de Dieu. L'horreur de cette idée est difficile à saisir. Ce n'est pas un sujet plaisant, c'est même un peu troublant. C'est un thème qui est rejeté par une majorité de personnes aujourd'hui. Pourtant, c'est une réalité terrible. C'est le destin juste et horrible qui attend ceux qui ne se repentent pas de leurs péchés, qui ne croient pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Et on ne peut pas accuser Jude de diluer son message ou d'éviter de parler de cette réalité. Le danger dans lequel on peut tomber, c'est de traiter cette vérité sans avoir de compassion pour les perdus. Mais il y a une façon de parler de ces choses qui est remplie de compassion. C'est de se rappeler que nous aussi, nous méritions ce destin. Nous méritions cette condamnation. La seule raison qui a changé notre destinée, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que Jude a dit au début de cette lettre. Il avait l'intention d'écrire au sujet d'autre chose, verset 3. Il a dit « Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Jude écrit par amour pour ses lecteurs. Il écrit en urgence au sujet d'une situation et en particulier de cette réalité de la condamnation qui attend ses faux enseignants en particulier. Mais il parle aussi de la réalité de l'enfer. Et rappelez-vous, Jude est quelqu'un qui, peu de temps auparavant, était incroyant. Il a grandi dans la maison avec le Seigneur Jésus, mais il ne croyait pas comme les autres frères. Il était sur le même chemin de cette terrible destinée, comme le sont tous les êtres humains, en route vers l'enfer. mais Dieu lui a fait grâce en Jésus-Christ. Et Jude veut que ses lecteurs réalisent cela. Tout à l'heure, on a lu, et même dans le message, on a lu de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe est aussi quelqu'un qui a parlé, prononcé beaucoup de paroles de malédiction, qui n'a pas hésité à proclamer le message que Dieu lui donnait, même si ses paroles pouvaient être dures sur les nations pécheresses ou sur le peuple d'Israël désobéissant. Mais quand Ésaïe a vu la gloire de Dieu, ce message de malheur, il le s'adresse à lui-même. Ésaïe 6, verset 5, « Malheur à moi, car je suis perdu. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe 6, verset 5, « Comme tout vrai croyant. » Ésaïe savait qu'en dehors de la miséricorde et de la grâce souveraine de Dieu, il méritait le sort d'une malédiction éternelle. On a vu comment Jude a comparé ses faux enseignants aux arbres sans fruits. De la même façon, le Seigneur Jésus a maudit un figuier qui ne portait pas de fruits, une image des faux enseignants et des responsables en Israël qui ne portaient pas de fruits. Il a prononcé toute une série de malédictions contre eux. Et quelques jours plus tard, le Seigneur Jésus est devenu malédiction pour son peuple. En prenant sur lui les péchés de son peuple, en subissant la malédiction de la colère de Dieu sur lui, à la place de son peuple. La vraie malédiction que méritent nos péchés, cette malédiction dans toute sa furie infinie, déchaînée, a été déversée sur le Fils de Dieu, lui qui est sans péché. Cette malédiction infinie a été déversée sur celui qui ne mérite et qui n'a connu que la bénédiction de la faveur de Dieu, son Père, et de son amour. Et la terre s'est couverte de ténèbres quand le Fils de Dieu a connu l'abandon de son Père. Mais le Fils de Dieu est allé jusqu'à la croix. Il a accepté de faire cela, afin que tous ceux qui croient en son nom ne fassent jamais l'expérience de connaître l'obscurité d'une séparation éternelle d'avec Dieu le Père. Il l'a fait pour que nous puissions pour toujours ne voir que la lumière de la face de Dieu sur nous. Toute la malédiction que nous méritons selon la justice de Dieu a été enlevée parce qu'elle a été placée sur Christ pour ceux qui croient en lui. Et à la place, il n'y a que des bénédictions pour ceux qui sont en Christ. On a cité ce cantique « Quel repos céleste » tout à l'heure. Et le deuxième refrain dit ceci « Quel repos céleste ! Mon fardeau n'est plus. Libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos, quel céleste repos. » Dieu nous aide à chanter ce cantique dans la semaine, dans ces jours qui viennent, à chanter ce repos que nous avons en Christ, qui nous aide à méditer sur ces réalités, et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.